Est-ce que ça marche ? Bonjour à tous. Merci d'être venu reprendre avec nous les journées de travail de la République des idées. Au programme de notre discussion de ce matin, les ressources naturelles, un bien commun. Je vais brièvement introduire avant de passer la parole aux trois intervenants. Donc, les ressources naturelles, un bien commun, titre de notre discussion de ce matin. On pourrait dire pour introduire que, après des années d'ignorance ou de manque d'intérêt des pouvoirs publics et des milieux intellectuels, la question écologique est aujourd'hui saisie, traitée avec égard, voire célébrée comme cause centrale, du moins comme enjeu majeur des désordres du monde. Et les exemples sont nombreux de cela. Mobilisation collective autour du changement climatique, appel à la protection de la biodiversité, lutte contre la pollution de l'air en ville, etc., etc. Et en France, le contexte est assez intéressant parce que le Grenelle de l'environnement a voulu marquer une date symbolique, celle de l'avènement d'un New Deal écologique et d'un tournant dans la conduite des affaires publiques. On voit aujourd'hui que sa mise en œuvre est un peu plus laborieuse, mais il y a eu vraiment la volonté de marquer une date symbolique, un changement. Or, cette nouvelle prise en compte de la question écologique réjouit bien sûr les défenseurs de l'environnement, mais elle a au moins un défaut, celui de créer l'illusion d'un consensus autour des horizons à atteindre et des politiques à conduire. Et donc on a vu se populariser des expressions assez ambiguës comme développement durable, croissance verte, etc. et qui pourraient parfois, dans leurs usages, donner l'impression que les systèmes d'exploitation des ressources naturelles peuvent en gros continuer à peu près comme avant, à condition de quelques ajustements de bon sens. En réalité, cette conclusion-là est mise à mal par différents constats, mais notamment par le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le constat de la finitude des stocks de ressources naturelles et la perspective d'un épuisement à court ou moyen terme des gisements de pétrole, de plomb, de cuivre, de zinc, d'or, etc. Donc le consensus, ce consensus-là n'est qu'apparent. Et en réalité, ce qui est assez passionnant pour tout le monde aujourd'hui, la question écologique, par sa dimension globale, par sa dimension transversale, par sa temporalité aussi particulière, très longue, cette question interpelle les articulations historiquement constituées dans les démocraties modernes entre liberté individuelle et responsabilité collective, entre propriété privée et socialisation, droit à la jouissance des fruits de son travail, contraintes générationnelles, et on pourrait continuer cette liste. Donc, se demander si les ressources naturelles sont un bien commun, ce n'est pas seulement reprendre une ancienne interrogation philosophique, c'est poser aujourd'hui, très directement, la question du régime d'action, et du régime d'action légitime, du régime d'action socialement acceptable, de cette nouvelle contrainte posée par la prise de conscience de la vulnérabilité de l'écosystème. Alors, pour en parler ce matin, trois intervenants. Nous avons le plaisir d'être avec Dominique Bourg, professeur de philosophie à l'Université de Lausanne, membre du comité stratégique de la Fondation Nicolas Hulot, donc on pourrait dire un intellectuel directement engagé dans les mouvements et les mobilisations autour de l'environnement aujourd'hui, auteur notamment d'un livre qui s'appelle « Risques technologiques et débats démocratiques », donc qui montre bien l'articulation entre questions écologiques et questions d'organisation sociale, politique. À ses côtés, Éloi Laurent, économiste, chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques et auteur à la République des idées, l'année dernière, de La nouvelle écologie politique, sous-titré « Économie et développement humain », coécrit avec Jean-Paul Fitoussi. Donc on voit toujours cette articulation. Et enfin, Alain Lipietz, économiste et député européen. Je vais commencer en donnant la parole à Éloi Laurent et avec simplement la même demande aux trois orateurs, une intervention de 10-15 minutes, 15 minutes maximum si possible, de manière à ce qu'ensuite vous puissiez discuter entre vous et surtout que nous puissions prendre les questions et interventions de la salle. Merci.
Bien, merci. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier Pierre Rosanvallon pour son invitation, la République des idées de manière générale, l'équipe de la vie des idées. Et je voudrais aussi remercier Thierry Pech qui nous a accompagnés dans la rédaction de ce livre et dans la publication de ce livre. Donc, je voudrais lui rendre hommage pour son travail et qui nous a beaucoup aidé. Alors, je vais prendre les choses de manière peut-être un peu générale pour ouvrir le débat, en m'interrogeant donc sur la définition de commun et en prenant les choses de manière assez élémentaire. Commun, c'est à la fois ce qui est à tous et c'est ce qui est à plusieurs. Et en fait, on voit immédiatement qu'il y a une tension entre le tous et le plusieurs, ou le tous et le quelques-uns. Et en fait, c'est cette tension-là qui, évidemment, est au cœur de la question des ressources naturelles comme bien commun. En fait, elles sont à la fois trop communes, ces ressources naturelles, et pas assez communes. Et en fait, c'est dans le trop commune et dans le pas assez commune qu'il y a la tension, je crois, fondatrice pour comprendre le problème. Le point d'accès peut-être le plus simple pour saisir les choses, je vais parler de la dimension temporelle et puis après je parlerai de la dimension spatiale. Donc, la dimension temporelle, le problème, on le comprend bien, c'est qu'il y a une dimension intertemporelle dans l'appropriation, la gestion et la jouissance des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont communes, ces ressources naturelles, à toutes les générations, mais il n'y a qu'à un moment donné du temps que les habitants de la planète qui ont des droits sur elles, en quelque sorte, qui peuvent, ou plutôt un pouvoir sur elles. Et c'est tout le problème. Le problème, en fait, c'est, je crois, ça pose très directement la question de du problème que posait Pierre Rosanvallon, c'est-à-dire c'est quoi une démocratie permanente ? Dans le cas des ressources naturelles, c'est quoi une démocratie dynamique ? Comment fait-on la démocratie avec des absents ? Comment fait-on la démocratie avec des gens qui ne sont pas autour de la table, qui sont les générations à venir? Et donc, le rapport, évidemment, là, c'est le rapport entre le court terme et les deux autres temps qui sont le moyen terme et le long terme. Et là, il y a évidemment un problème parce que on est obligé de faire parler les générations futures. Donc, il y a une espèce de ventriloquisme démocratique qui fait qu'on fait parler des gens qui ne sont pas à la table de négociation avec nous. Et c'est d'autant plus important de les faire parler qu'il paraît clair à présent qu'on est dans un contexte ce qu'on pourrait appeler une guerre du présent contre l'avenir. C'est-à-dire qu'on a une surconsommation très claire des ressources naturelles, on a aussi une surproduction des pollutions, parce qu'en fait l'énoncé de la table ronde pourrait se lire en négatif, c'est-à-dire non pas les ressources naturelles mais les pollutions, et non pas les biens communs mais les mots communs. D'accord ? Il y a une lecture positive de l'énoncé, une lecture négative qui revient à peu près au même. Et donc la question c'est, à partir du moment où on a cette espèce, et d'ailleurs le point commun, je crois, entre la crise financière et la crise écologique, on se rend compte que derrière la crise financière, il y a la crise écologique. La crise financière est une sorte de métaphore de la crise écologique. Pourquoi ? Parce que les deux sont des crises de dépréciation de l'avenir. Et en fait, en tant que crise de dépréciation de l'avenir, elle pose très directement la question de la guerre du présent contre l'avenir et donc d'une éventuelle revanche de l'avenir sur le présent vers laquelle, je crois, on doit aller. Donc, le problème, c'est comment faire ? Comment faire pour faire parler les générations à venir ? Et là, l'économie, je crois, est utile, mais en même temps, elle est utile en tant qu'instrument. C'est-à-dire, si je puis dire, l'écologie remet l'économie à sa place, parce que l'économie est un instrument. Et un instrument qu'on utilise notamment dans les modèles de simulation. En fait, dans tous les modèles d'économie de l'environnement, on utilise des paramètres les paramètres les plus importants sont des paramètres éthiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'économie reprend la main parce que ceux qui ont la parole sont les économistes sur les questions d'économie de l'environnement. Mais en fait, si vous regardez les controverses en économie de l'environnement, derrière chaque controverse, il y a une question éthique. La controverse, par exemple, au moment de la publication du rapport de Nick Stern, entre Nick Stern d'un côté, Bill Nordhaus de l'autre ou Partadas Gupta, c'est en fait des controverses éthiques. Donc l'écologie remet complètement l'économie à sa place de ce point de vue-là. C'est ce qu'on a appelé dans le livre le principe de l'économie ouverte, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir une économie fermée, qui est une sorte de forteresse conquérante, qui est à la fois fermée aux autres et qui en même temps phagocyte toutes les autres sciences sociales. L'écologie, très clairement, commande à l'économie de s'ouvrir, et on voit très bien que dans tous ces débats, une fois de plus, des modèles de simulation, et les grands paramètres, c'est le taux d'actualisation. Comment, quel poids donne-t-on aux générations futures ? Est-ce qu'on considère qu'on doit avoir la même utilité qu'elles, ou est-ce qu'on considère qu'elles seront plus riches que nous et que donc on peut surconsommer les ressources naturelles ? C'est tout le débat. Donc, on voit bien qu'il y a cette question éthique qui revient. Et alors, le détour qu'on utilise souvent pour penser la question intertemporelle, c'est la métaphore de la famille. On dit, au fond, il faut prendre soin de l'avenir de nos enfants. ou de nos petits-enfants. Et on a l'idée qu'avec ce détour de la famille, on va arriver à l'idée de la démocratie. Et je pense qu'en fait, ce détour de la famille n'est pas bon. C'est vrai que c'est tentant de dire l'écologie, ce n'est pas la défense de la planète, c'est l'amour de ses enfants. Mais en même temps, quand on dit ça, on oublie le fait que les enfants ne sont pas des égaux. D'abord, ils ne sont pas des égaux par rapport à nous, puisque précisément ce sont des enfants, donc ça veut dire qu'on choisit pour eux, et ce ne sont pas des égaux entre eux, c'est-à-dire que l'inégalité au sein des familles, en fait, si on raisonne en termes familial, on va trouver le problème de l'inégalité très vite. Les familles ne sont pas égales. Donc en fait, il faut plutôt considérer les générations à venir, non pas comme des enfants, mais vraiment comme des citoyens. Et c'est tout le problème de comment penser une démocratie incomplète dans le temps et comment arriver à une démocratie vraiment dynamique, à un continuum démocratique de manière intertemporelle. Donc, et puis par ailleurs, il y a un autre problème qui est, je disais, il y a trois temps. Il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. On le voit dans les débats sur le changement climatique. Il y a aujourd'hui, 2020 et 2050. Et la question, c'est quels efforts sont faits à horizon 2020 et quels efforts sont faits à 2050. Par exemple, le débat aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe, c'est que les États-Unis disent on ne va pas faire beaucoup d'efforts jusqu'en 2020, mais on en fera beaucoup jusqu'en 2050. Et l'Union européenne dit on en fera beaucoup jusqu'en 2020 et encore plus si les États-Unis en font 30% de réduction du niveau des gaz à effet de serre de 1990 s'il y a un accord international substantielle à Copenhague. Donc la question, en fait, si on raisonne en termes de famille, c'est comment choisir entre ses enfants et ses petits-enfants. Ça paraît très difficile. Donc je pense qu'en fait, ce n'est pas une bonne façon de raisonner, même si ça pose bien la dimension éthique du problème. Et donc si on sent bien qu'avec ces trois dimensions temporelles, on a bien une partie de la question. Donc sont-elles des biens communs ? Oui, c'est commun à ces trois époques, aujourd'hui, le moyen terme et le long terme, mais en même temps, il n'y a que nous qui pouvons décider véritablement. Et donc, on utilise un certain nombre d'artifices pour faire parler les générations qui ne sont pas là. Deuxième volet du problème de cette communauté, la communauté donc en termes de temporalité, la communauté en termes d'espace. C'est-à-dire qu'on a là aussi trois espaces qui sont imbriqués dans les questions environnementales, l'espace global, l'espace national et l'espace local. On avait trois moments dans les questions intertemporelles, le court terme, le moyen terme et le long terme. Là, on a trois espaces, le global, le national, le local. Et donc, ça se complique encore plus. Bon, au niveau global, là aussi, on comprend bien, par exemple, que le climat est ce qu'on appelle un global common, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par bien public mondial. Ce que ça veut dire, c'est qu'une tonne de CO2 émise à Pékin ou une tonne de CO2 émise à Grenoble a exactement le même effet sur le climat mondial. Et donc, la question, c'est que si on ne fait pas des efforts tous ensemble, évidemment, ça ne va pas être très utile. Donc, le problème là, c'est de trouver un successeur au protocole de Kyoto 1, qui a été signé en 1997, pas ratifié par les États-Unis, qui est entré en vigueur en 2005, donc ça fait déjà 8 ans entre la signature et l'entrée en vigueur. Il faudrait trouver un successeur au protocole pour 2013, et on est déjà en 2009, donc on est déjà en retard. Mais tout l'enjeu, c'est de mettre les pays émergents et en développement autour de la table cette fois-ci. Ce n'était pas le cas à Kyoto 1. Donc, dans Kyoto 1, il y a les pays de l'annexe 1 ou B, peu importe. Et en fait, c'est essentiellement des pays développés. Enfin, c'est que des pays développés. Là, la question, c'est mettre les pays en développement et émergents autour de la table. Parce que précisément, si on ne fait pas les efforts ensemble, comme c'est un bien public mondial, ça ne servira à rien. Mais alors là, se pose un autre problème qui est la responsabilité commune. Qui doit payer ? Qui doit faire les efforts ? Les pays développés sont responsables du passé. Les pays développés sont responsables de 75% du problème depuis, disons, le milieu du 19e siècle. Mais les pays émergents sont responsables de 75% du problème depuis 2000 et sont responsables de 80% du problème pour l'avenir. Donc les pays développés sont responsables du passé, les pays en développement vont être responsables de l'avenir. Et aujourd'hui, on est dans le présent, on a la conférence de Copenhague et la question, c'est qui va payer ? Et la manière de s'en sortir, c'est de dire qu'il y a une responsabilité commune, puisque c'est un bien commun, et il faut des transferts financiers et de technologies des pays développés vers les pays émergents et en développement. C'est à peu près la seule façon de faire aboutir cet accord à Copenhague. S'il n'y a pas ces transferts, il n'y aura vraisemblablement pas d'accord du tout. Donc on voit que la question, c'est, une fois qu'on a dit que c'est un bien commun, est-ce que la responsabilité est commune ? Elle l'est, oui, et ça complique en fait les choses, parce que la responsabilité est commune, mais à différentes époques du temps. Sur le plan national, la question, c'est est-ce que les ressources environnementales et est-ce que l'inverse, c'est-à-dire les mots environnementaux, sont équitablement répartis ? Est-ce que les biens et les mots sont communs dans la société ? Et la réponse est non. Et c'est la question de ce qu'on appelle les inégalités environnementales ou les inégalités écologiques, une question tout à fait passionnante, qui est le fait que les populations ne sont pas exposées de la même manière ni aux risques, ni ne bénéficient des aménités environnementales, c'est-à-dire de l'accès à un air non pollué, à des espaces verts, etc. Donc il y a des inégalités très fortes au sein des nations, et c'est toute cette problématique émergente des inégalités environnementales, en fait, qui est plus avancée dans les pays anglo-saxons, pas très avancée en France. Il serait temps d'avoir une réflexion sérieuse sur cette question des inégalités environnementales, mais on a déjà quelques petits éléments. Par exemple, j'ai pu calculer à partir des chiffres de la délégation interministérielle de la ville que les deux tiers des personnes qui sont exposées au risque industriel en France habitent des zones urbaines sensibles. Voilà, donc c'est absolument considérable comme inégalité. Si vous prenez l'épisode de la canicule de 2003 et que vous regardez sur le nombre de décès, donc je rappelle 15 000 morts en France, c'est absolument considérable, je pense qu'on a un petit peu oublié ça, comme préfiguration des désastres climatiques à venir, et bah, si vous regardez, il y a 90% des 15 000 morts qui ont plus de 65 ans. Donc il y a une inégalité très claire par rapport à la question de l'adaptation par rapport à l'âge. Et si vous regardez en plus le facteur socio-économique à l'intérieur de la problématique démographique, vous avez en plus des inégalités entre les gens qui sont plus ou moins riches et les gens qui sont plus ou moins autonomes. Donc vous avez une inégalité sur l'âge, sur la catégorie socio-professionnelle et sur le degré d'autonomie. Donc on a vraiment toute la palette des inégalités, et je pense qu'il serait très utile de penser ça, puisqu'on va avoir plus de catastrophes et il nous faut plus d'égalité. Et je pense que les catastrophes environnementales sont un révélateur absolument formidable du degré d'égalité des sociétés. Hein, c'est la problématique d'Amartya Sen, de l'idée « il n'y a pas de famine dans les démocraties », c'est la même chose. La question, c'est quel est le degré de démocratie ? On voit ça sur chaque tremblement de terre, parce que, en fait, ce n'est pas des catastrophes environnementales, ce sont des catastrophes sociales. On voit ça, par exemple, récemment sur la question du tremblement de terre en Italie. Évidemment, derrière, il y a toute la question de la corruption, du secteur de la construction, etc. C'était déjà la même chose dans le Sichuan précédemment. Enfin, dernier point, et je m'en tiendrai là, le dernier niveau, c'est le niveau local. Et dans le niveau local, là aussi, on retrouve une forêt de problèmes. Ottling, qui est un économiste qui a lancé l'économie de l'environnement par un article de 1931, commence son article de 1931 en disant « l'économie de l'environnement est une forêt de problèmes fascinants ». Et en effet, c'est tout à fait une forêt de problèmes fascinants. C'est, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais donc, dernier niveau, le niveau local, et la question donc de la déforestation, qui est un problème absolument majeur. Pourquoi ? Parce que la déforestation, c'est une sorte de triple menace pour la biodiversité, pour le changement climatique, puisque les arbres sont des puits de carbone, et pour tout simplement ce qu'on appelle les services rendus par les écosystèmes, c'est-à-dire le fait que la forêt fait vivre en fait un certain nombre de gens. Et là, on a bien une tension, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut que un certain nombre de populations préservent les écosystèmes et préservent donc les grandes zones forestières tropicales qui sont aujourd'hui victimes de la déforestation en Amérique du Sud, au centre de l'Afrique et en Indonésie. Et en même temps, elles en vivent aussi. Et donc le drame, c'est qu'il y a des boucles pauvreté sociale, dégradation environnementale. C'est-à-dire qu'on voit très bien ça en Haïti ou à Madagascar, où on a en fait des cercles vicieux terribles, où les gens consomment les forêts parce que c'est le seul capital auquel ils ont accès. Ils n'ont pas accès au capital physique, pas accès au capital humain, donc ils ont accès au capital naturel. Ils consomment les forêts, donc ils dégradent leur environnement, donc il y a plus d'érosion. Donc en fait, ces îles sont en train de s'enfoncer littéralement dans la mer, c'est-à-dire que plus rien ne retient le sol. Donc il y a des érosions, donc il y a des pollutions des eaux. Donc 90% des enfants haïtiens souffrent de parasites intestinaux. Et donc évidemment, il y a une boucle absolument terrible. Comment en sortir ? Il y a une solution intéressante qui a été donnée par SUGDEV dans un rapport récent des Nations Unies, qui est il faut assurer le paiement des services rendus par les écosystèmes. C'est-à-dire qu'il faut faire de ces populations pauvres les gardiennes, en quelque sorte, des écosystèmes pour notre bien à tous. Alors, c'est sans doute un petit peu paternaliste et condescendant, et ce n'est pas idéal en termes de justice entre les peuples, mais en même temps, ça pose une vraie question qui est que oui, dans ces zones-là, il y a une responsabilité importante en termes de biodiversité et de changement climatique. Et donc là, on voit aussi les niveaux d'imbrication compliqués entre le global, le national et le local. Et puis, dernier point, la question de la propriété communautaire. Mais ça, je pense qu'Alain Lipietz va en parler, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais dans l'idée des biens communs, il y a l'idée de ce qu'on appelle la propriété communautaire. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'État, c'est-à-dire la publicisation, si on veut, et le marché, c'est-à-dire la privatisation, il y a une forme intermédiaire de droit de propriété, puisque la question, c'est le rôle des institutions et des droits de propriété dans la préservation de l'environnement. Et cette forme intermédiaire, c'est la propriété communautaire. Est-ce que c'est efficace, pas efficace ? Est-ce que ça marche mieux que l'État ou le marché ? C'est toute une question, mais c'est ça qu'on peut identifier comme problème au niveau local. Alors, Pour conclure, je voudrais vous dire simplement que donc, tout ça est horriblement compliqué. Je suis désolé de vous assommer avec ça un samedi matin. J'ai l'idée que c'est un petit peu lourd. Mais en même temps, je voulais, faire le panorama le plus large possible des choses que je connais. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées en ombre parce que je ne les connais pas. Mais simplement, donc, vous dire que je crois que la façon dont l'enjeu se rattache à la problématique de ces journées, c'est dans l'idée de la démocratie dynamique, dans l'idée du continuum démocratique, c'est-à-dire en effet, une fois de plus, comment fait-on la démocratie avec des gens qui ne sont pas là et comment fait-on la démocratie donc, de manière intertemporelle et de manière multiniveau. Et ça pose aussi une question peut-être encore plus compliquée qui est ce que j'appellerais la démocratie de la complexité. C'est-à-dire qu'on est dans des systèmes, l'interdépendance entre les systèmes humains et les écosystèmes donne lieu à ce qu'on appelle la complexité, c'est-à-dire au phénomène d'irréversibilité, au phénomène de résilience, aux questions de l'adaptation, toutes ces questions-là. Et donc la démocratie de la complexité, c'est comment on pense de manière démocratique, bah, précisément l'irréversibilité, la résilience et l'adaptation. Voilà, merci de votre attention.
Merci beaucoup Éloi Laurent. Je passe maintenant la parole à Alain Lipiette.
Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Bon, Éloi Laurent a terminé sur les forêts. Alors j'étais il y a récemment, pendant le Forum social mondial en Amazonie, à Beleng, et là on a discuté notamment d'un livre absolument extraordinaire composé par une représentante de la fondation Heinrich Böll, la fondation des Verts allemands, qui s'appelle, bon là, cette personne s'appelle Silke Helfrich, justement sur les biens communs. La forêt est évidemment typiquement un bien commun, mais son livre s'appelait Gènes, octets et émissions, enfin c'était en espagnol, bien commun et citoyenneté. C'est-à-dire que le spectre des biens communs est énorme. On nous a demandé ici de parler des biens naturels comme biens communs, mais il y en a plein d'autres, hein. Alors évidemment, les forêts, l'eau, l'atmosphère, tout ça, c'est des biens communs. Mais il y a d'autres biens communs. Il y a des biens communs totalement immatériels, comme par exemple les savoirs indigènes, l'Internet. Hein. On a une bataille absolument colossale en ce moment entre les tenants d'une privatisation et d'une enclosure en quelque sorte de l'Internet et de la culture, hein, avec la loi Hadopi, contre d'autres solutions qui sont fondées au contraire sur une gestion de la culture en tant que bien commun avec le système de la licence globale. Bon, ces problèmes-là sont des vieux problèmes qu'on connaît à propos des biens naturels. Et je vais essayer de me concentrer, puisqu'on nous l'a demandé ici, sur les biens naturels, c'est-à-dire donc l'eau, la forêt, le spectre électromagnétique, hein, les ondes hertziennes et l'atmosphère. La première chose qu'il faut dire et qui ressortait de ce livre, alors c'est un livre d'expériences multiples. Hein, c'était un réseau qui avait fonctionné pendant plusieurs années en Amérique latine sur les biens communs. Et il montrait deux choses très importantes. D'abord, il faut bien distinguer l'objet lui-même sur lequel il porte, hein, le spectre électromagnétique, les savoirs indigènes, l'eau, etc., qui peuvent avoir, par certaines de leurs propriétés, un statut de bien public, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès en même temps. Alors évidemment, si trop de monde y va, ça l'use, mais pratiquement tout le monde peut y avoir accès en même temps sans avoir l'impression de priver les autres de l'accès. C'est un peu ça la définition même d'un bien public. Mais un bien commun, ce n'est pas ça. C'est une certaine façon de gérer un bien public. Un bien commun est un rapport social. On peut avoir des biens publics qui sont gérés privativement. Vous avez de la terre où vous passez les troupeaux, et puis quelqu'un vient, met des barbelés et dit « maintenant c'est à moi ». Un bien public qui était un bien commun devient un bien privé dans ce cas. Et c'est une des grandes batailles, savoir est-ce qu'il vaut mieux gérer un bien public, c'est-à-dire un de ces biens où on a l'impression que tout le monde, alors justement c'est le grand débat, tout le monde ou beaucoup de monde ou un certain nombre de gens peuvent se servir en même temps sans gêner les uns les autres. Est-ce qu'il vaut mieux le gérer comme public ou comme privé? Alors, ça a été l'objet d'une très, très grande discussion dont un célèbre écologiste, Harding, a été le porte-parole sur les biens communs du Moyen-Âge. Hein, les paysans du Moyen-Âge avaient accès à des champs communs où ils faisaient passer leurs troupeaux. Et Harding dit c'est justement le fait qu'il y a eu surpâturage parce que c'était un bien commun qui a provoqué leur ruine. Il y a eu trop de monde qui s'y est mis. Et ce livre de Silke montre qu'en réalité, ça n'a jamais existé, une situation dans laquelle un bien commun n'était pas soumis à des règles d'usage. Si vous allez encore aujourd'hui dans une oasis du sud de la Tunisie, de l'Algérie ou du Maroc, vous voyez que le Metz, ruisseau d'eau qui sert à alimenter l'oasis, est géré par un conseil des anciens, par une couche définie par la communauté, qui, selon des règles consuétudinaires, des règles coutumières de la communauté, répartit ce filet d'eau entre les différents champs, qui comprend chacun quelques palmiers, un petit peu d'agrumes, etc. Donc, il n'est jamais vrai qu'un bien commun soit un bien de tout le monde, c'est-à-dire de personne. Ça n'arrive pas que des biens communs soient gâchés par le fait qu'ils soient communs. Ça arrive par le fait que le mode de régulation qu'on avait mis dessus, le rapport social de biens communs, se dérègle parce que il est soumis à la pression d'un autre rapport social, par exemple. Ça peut arriver aussi que la gestion d'un bien comme bien commun soit trop conservatrice. Alors là, oui, on peut dire que les biens communs au Moyen-Âge se sont révélés peu efficaces, c'est-à-dire qu'aucun paysan n'avait intérêt à faire de l'amendement des sols, puisque c'était un autre paysan qui pourrait s'en servir la saison suivante. Donc on est passé à la propriété privée pour qu'un investissement à long terme se fasse sur ces champs, et c'est une des raisons de l'entrée puis de la sortie de la grande fluctuation démographique de l'Europe au moment de la grande peste. Bon, alors, on voit tout de suite que qui dit bien commun pense à un certain mode de socialisation du travail qu'on appelle la réciprocité. Vous savez que Polanyi, le grand anthropologue, a dit qu'il y a trois façons de socialiser le travail. Soit l'État prend des impôts et redistribue à tout le monde, soit les individus s'échangent, je te donne pour que tu me donnes, c'est le rapport marchand, soit ce qu'on appelle la réciprocité, qui est quand même le premier modèle historiquement, et c'est lui qui survit dans la plupart des cas, notamment dans la famille. L'exemple de la famille, c'est à la fois c'est dynamique, effectivement, mais c'est aussi fondé sur la réciprocité. L'idée, je passe encore de bâtir mes plans terres à cet âge, c'est-à-dire la critique de l'échange à la réciprocité, c'est que tombe justement sur le fait que la réciprocité, au moins, ça dure dans le temps. On peut planter à cet âge, c'est-à-dire quand on est vieux, parce que c'est les enfants qui en profiteront, et nous, on a profité de ce qu'ont planté nos arrière-grands-parents. Donc, d'une certaine façon, la réciprocité, c'est-à-dire je donne à la communauté, alors ici, la famille, parce que j'ai confiance qu'un jour, elle me donnera quand j'aurai besoin. Et d'ailleurs, d'autres qui ont donné à la communauté, je profite dès aujourd'hui de ce qu'ils ont fait, alors que ce soit les petits canaux d'une oasis, que ce soit... justement la forêt plantée par mon grand-père ou le jardin planté par mon grand-père, fait que je continue à le faire pour les générations futures sans aucun problème, parce que d'une certaine façon, j'ai déjà profité de ce qu'ont fait mes grands-parents et je considère que c'est mon devoir aujourd'hui, là, maintenant, de travailler pour mes petits-enfants. Donc la réciprocité et les rapports de bien commun, c'est quelque chose de très ancien, c'est quelque chose qui répond au problème de la démocratie dynamique, c'est quelque chose qui répond au problème du fait que les biens publics risquent de s'user si on n'a pas des règles qui tiennent compte du fait que ça doit servir pendant des générations et des générations. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, le rapport social le plus adapté à la protection de l'écologie, des biens communs naturels, des biens publics naturels, excusez-moi. Et probablement, c'est ce qui est le plus adapté aux biens publics intellectuels qui sont en train de se développer à toute vitesse aujourd'hui dans cette société du savoir qui sera sans doute celle du XXIe siècle, avec des exemples comme Wikipédia, comme Internet, etc. Enfin, les logiciels même d'Internet, on travaille pour eux en se disant que quand on aura besoin, quelqu'un d'autre auquel on n'a pas du tout pensé aura déjà résolu le problème. Alors, cette conception-là, il ne faut pas, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir. D'abord, elle varie énormément d'un bien commun à un autre. C'est pas, on ne traite pas l'eau de la même façon qu'on traite les ondes magnétiques, enfin, le spectre hertzien, ou les forêts, ou l'atmosphère, ou Internet, ou les gènes, etc. Et il ne faut pas hésiter, dans cette diversité, à utiliser d'autres formes démocratiques ou marchandes. C'est-à-dire le rapport d'État et le rapport marchand sont évidemment dangereux pour cette forme de réciprocité parce que ce n'est pas la même chose, mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face, ça s'articule toujours avec des rapports marchands et avec des rapports d'État. Bon, alors j'ai cité l'eau. L'eau, alors il y a l'eau des oasis, bon, c'est directement la propriété de toute l'oasis avec des anciens, des spécialistes qui répartissent l'eau, etc. Bon, ok. Une autre solution, c'est la rente privée. Alors, il y a une bataille alors, mondiale hein, pour savoir si est-ce que l'eau peut devenir privée ou pas. De la même façon que les gens ont dit, notamment Harding, que la gestion commune des biens publics comme la terre était dangereuse à cause du surpâturage et des choses comme ça, des gens qui disent la meilleure façon de préserver l'eau, c'est de la rendre privée. Et c'est une des grandes batailles actuelles. Hein, il vient d'y avoir une conférence de l'ONU. Bon, j'étais en tant que parlementaire européen responsable des rapports à la communauté andine. C'est la bataille actuellement. C'est la bataille dans toute la communauté andine. Le président Uribe vient de décider une réforme de la Constitution disant que l'eau, sous forme de lac, devenait privée. Alors, vous voyez bien que, comme n'importe quoi peut être transformé en lac, ça veut dire que tout eau, tout cours d'eau peut devenir privé. Hein, on a eu la bataille que vous connaissez, qui a permis la prise du pouvoir par Evo Morales en Bolivie. C'était des batailles, justement, sur l'eau, où la propriété privée s'opposait aux formes consuétudinaires de distribution de l'eau. Donc, c'est des batailles absolument considérables. Bon, je dis très clairement que, pour les écologistes, on est plutôt pour l'eau publique et traitée en tant que bien commun, mais il y a une énorme bataille là-dessus. Bon, mais je vais me concentrer sur celle qui vient d'être évoquée, celle du climat. Alors, effectivement, la bataille du climat est très intéressante parce que ce n'était même pas un bien commun. L'atmosphère n'était pas un bien commun, c'était une res nullius, comme les océans. Comme le centre des océans, plus exactement. Maintenant, il commence à avoir sur les bords un tas de règles de gestion. Alors, à un certain moment, on a dit, mais à utiliser l'oxygène n'importe comment, à utiliser l'atmosphère n'importe comment, on est en train de détruire ses capacités de faire vivre l'humanité à son niveau actuel, c'est-à-dire à la température dans laquelle l'Homo sapiens s'est développé. Le réchauffement climatique qui s'est déclenché va évidemment nous amener à des niveaux de température qui ont pu être déjà connu par la planète, mais pas à une époque où s'est développée les civilisations humaines actuelles. Bon, donc problème, ce bien commun qu'est notre climatiseur mondial est en train d'être foutu par une surexploitation. Quand vous avez des millions de personnes qui s'en servent, c'est pas grave. Quand vous avez 6 milliards, ça devient grave, surtout quand les gens ne font pas attention et qu'il y a des gens qui polluent particulièrement en produisant des gaz à effet de serre. Alors, là, la démocratie dynamique joue, et bon, le ventriloquisme joue. Mais comme, Éloi, tu l'as remarqué, les Verts, par exemple, n'utilisent plus la formule « nos enfants » depuis, justement, la canicule. C'est-à-dire, ceux qui sont morts de la canicule de 2003, les 15 000 morts, avaient créé l'effet de serre qui les a tués pendant la période fordiste, 1950, 1975, disons. Hein, ils avaient continué, d'ailleurs, après. C'est-à-dire que le réchauffement climatique qui a provoqué la catastrophe commence par tuer non plus les enfants, mais ceux qui, à leur âge mûr, ont provoqué la catastrophe. C'est fini l'idée que les catastrophes écologiques soient des catastrophes où nous compromettons l'avenir. Nous compromettons notre avenir. Nous compromettons nous-mêmes, maintenant. Et cette crise-ci, qui est à la fois une crise financière, écologique et écologique, sociale et écologique. Bon, elle commence en 2006-2007, d'abord par une crise écologique, c'est-à-dire l'épuisement pétrolier, la montée en flèche du prix des aliments, due à la façon même dont on riposte à la réfaction du pétrole par la montée des agrocarburants, etc. C'est-à-dire, on paie maintenant cash, pratiquement. On n'est plus loin de l'iceberg. On est tout près de l'iceberg. On est déjà partiellement engagé dans l'iceberg. La réciprocité commence à jouer à l'échelle humaine, d'une vie humaine. Alors évidemment, si vous avez 70 ans, hein, vous risquez un petit peu moins que si vous n'en avez que 20. Mais si vous en avez 20 ou si vous en avez 15, vous vivrez 2050. Enfin, j'espère, du moins. Hein, vous vivrez 2050, c'est-à-dire tous les emmerdements, vous les aurez, de votre vivant. Donc, d'une certaine façon, c'est une société où, effectivement, il faut parler au nom des générations futures, mais par pure extrapolation de ce qu'on connaît déjà et de ce qu'on commence déjà à souffrir. Donc, alors, le problème, c'est que, d'abord, on n'a pas sur ces biens publics globaux la démocratie universelle. On n'a pas de république universelle. On a des accords internationaux, genre Copenhague, mais on a quand même des gros blocs, genre États-Unis, genre Europe. Et évidemment, si l'Europe prend position en disant moins 30 degrés, moins 30% s'il y a accord international, moins 20% s'il n'y a pas accord, elle s'engage d'une certaine façon unilatéralement. C'est-à-dire que les citoyens d'Europe disent cash, on y va à au moins moins 20 et si possible moins 30. Et là, on voit comment la démocratie représentative est inefficace avec la grande catastrophe de décembre dernier. Là, Sarkozy et Merkel disent on laisse tomber le moins 30. De toute façon, malgré la victoire d'Obama, on fera que moins 20. Pourquoi ? Parce que les industriels allemands, parce que les mines de charbon polonaises, parce que Berlusconi ne veut pas, etc. C'est-à-dire qu'on voit clairement se percuter les problèmes d'une démocratie formelle avec fort degré de délégation, c'est-à-dire où c'est le Conseil et pas le Parlement qui vote. Donc on est quand on est au Conseil européen, on est déjà au troisième degré. Hein. C'est les parlements nationaux élus par le peuple, d'accord, qui élisent des gouvernements, qui élisent des représentants qui vont se retrouver au Conseil des gouvernements européens, ce qu'on appelle le Conseil européen. Donc, à ce niveau-là, pratiquement, le peuple, il est très lointain. On n'entend plus du tout. Il n'y a plus que les lobbies extrêmement forts qui peuvent dire « Nous, on ne veut pas lutter contre le changement climatique. D'accord, bon, bah, il fera plus 3 degrés, plus 4 degrés. Ça nous est parfaitement égal. On vendra des climatiseurs. Nous, ce n'est pas notre problème. » Donc, on voit vraiment qu'il y a une première bataille. Faire de la démocratie universelle, faire déjà une démocratie européenne, ça serait fondamental. Deuxième bataille, arriver à mixer la démocratie publique et la démocratie locale. Je pense que ce qu'on attendait, c'était effectivement du Conseil et du Parlement de dire on fait moins 30% de gaz à effet de serre d'ici 2020, mais en même temps permettre à la démocratie locale de s'impliquer là-dedans. Car comment est-ce qu'on va faire les moins 30 degrés ? Les moins 30% pour limiter le réchauffement climatique, essentiellement par des politiques urbaines de transport et des politiques d'habitat. Et politiques d'habitat, quand vous êtes en habitat collectif, justement, votre façade devient l'arme pro-climat numéro un, le bien commun pro-climat. Hein, et donc, l'assemblée de copropriétaires ou de colocataires devient la cellule de base de l'accord de Kyoto ou de post-Kyoto. Donc on est vraiment dans une articulation extrêmement forte entre la démocratie locale et la démocratie globale. Dernier point, mais alors ça commence à se résorber. Pendant 20 ans, les Verts ont dû se battre pour défendre le principe de mettre un peu d'argent dans cette affaire, c'est-à-dire le principe pollueur-payeur. Et on se heurtait à une gauche de la gauche traditionnelle qui nous disait vous êtes en train de marchandiser la nature. Alors je crois que c'est un point extrêmement important qu'il faut dissiper. Une des méthodes qui permet de faire de la démocratie représentative et participative de la rendre pratique pour tout le monde, c'est souvent de donner un prix à la pollution, de taxer la pollution. Mais la taxe, la sanction, que ce soit quand on achète un quota qui est une forme de payer une indulgence pour son péché, si vous voulez, hein, mais en gros, ou l'écotaxe, qui est une façon de payer son péché au détail, hein, c'est pas un rapport marchand. C'est une sanction que la communauté, hein, la gestion communautaire d'un bien commun, impose à un agent privé qui, en quelque sorte, avec plus ou moins de raison, hein, s'autonomise par rapport à son devoir de respecter l'environnement. Alors, il peut avoir raison, de toute façon, vivre, c'est respirer, et respirer, c'est polluer, c'est faire du gaz carbonique, donc c'est faire du gaz à effet de serre. Donc, ne racontons pas l'histoire, on est toujours obligé de polluer. Mais polluer trop, il est normal de faire payer, donc ne disons pas qu'on marchandise la nature, on fait des taxes à ceux qui polluent trop. Voilà. Donc, je crois que c'est un peu ça notre problème dans les années à venir. Comment articuler une démocratie représentative qui va faire le grand cadre? Voilà, vous avez le droit à tant de tonnes ou de millions de tonnes par an. Une démocratie participative Comment est-ce qu'on fait pour diminuer le nombre de tonnes qu'on produit au niveau local, du quartier, même de l'immeuble, hein? Et enfin, ne pas avoir peur d'utiliser des mécanismes économiques dès l'instant qu'ils sont le produit direct des décisions politiques. Voilà.
Merci beaucoup. Dominique Bourg, c'est à vous.
Merci Jade, bonjour à tous. Je reprends un tout petit peu de champ par rapport à cette notion de bien commun. Bon, comme l'a rappelé Éloi tout à l'heure, effectivement, une tonne émise à Pékin ou à Chicago a le même impact sur la modification de la composition chimique de l'atmosphère et partant sur les mécanismes régulateurs du climat. Mais il y a quand même une différence de principe entre le climat et, au moins au sens classique, un bien commun. Par définition, un bien, c'est ce qu'on possède, c'est ce qu'on a devant soi, c'est ce qu'on peut manipuler, exploiter. Pas tout à fait le cas du climat. Le climat, comme d'ailleurs ça a été rappelé tout à l'heure, conditionne l'essor de nos civilisations et peut-être, au moins à partir d'un certain niveau, probablement la perpétuation du genre humain. Et en ce sens-là, on n'est pas du tout par rapport à un bien commun, mais on est par rapport à ce qui conditionne l'usage de tout bien, quel qu'il soit, commun ou privé. Et là, effectivement, c'est un défi énorme. Alors, par rapport à ça, je voudrais quand même revenir aussi à la... Et je reviendrai au climat après, à la problématique des biens communs, en repartant aussi du texte d'Ardine, mais en prenant un petit peu une autre strate. Effectivement, ça n'a jamais existé, surtout dans le cadre de l'histoire, des biens communs sans précisément régulation. Or, la conclusion, justement, d'Ardine, c'est ça. C'est que par rapport à un bien commun, le progrès technologique ne nous est d'aucun secours. La seule façon qu'on a de le gérer, c'est effectivement des régulations. C'est quand même aussi le côté le plus fort. Alors je voudrais simplement redire que de manière générale, parce que nos sociétés sont fondées sur l'illusion que les technologies nous sauveront. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos sociétés sont fondées sur un contrat, d'une certaine manière, hein, c'est l'héritage de la philosophie du contrat, qui est le suivant. Elles sont organisées de telle sorte que chacun puisse y maximiser et sa production et sa consommation. Alors ça, franchement, c'est totalement contradictoire avec précisément ce qu'on appelle la finitude de la planète. Et pour faire face à ces difficultés, encore une fois, le progrès n'est pas suffisant, tout simplement parce que dans certains cas, alors ça peut être, par exemple, penser aux ressources halieutiques à l'échelle mondiale, au contraire, il va accélérer la destruction du bien commun. Dans d'autres cas, effectivement, il va alléger d'une part pour réalourdir de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Si vous regardez, par exemple, la puissance égale, un ordinateur aujourd'hui consomme beaucoup moins d'énergie qu'il y a 10, 20, 30 ans. Mais en revanche, les usages de l'informatique se sont étendus, la puissance nécessaire pour traiter l'image, etc., s'est accrue. Et au bout du compte, on consomme toujours et de plus en plus d'électricité de ce fait. Alors, quel que soit le côté dont on regarde le progrès, eh bien, si on veut qu'il nous permette de nous aider à sortir de l'impasse dramatique dans laquelle nous sommes, de toute façon, il faut se référer à des instruments économiques, lesquels ne pourront être acceptés que s'ils le sont de façon démocratique. Si ces 10 instruments doivent limiter en quelque sorte ou réorienter notre pouvoir d'achat, effectivement, la question est une question démocratique et c'est assez clair. Alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous montrer en quoi le contexte général dans lequel nos démocraties vont évoluer n'a rigoureusement rien à voir avec celui qui a permis l'essor de ce qu'on appelle les démocraties représentatives occidentale. Et on pourrait s'amuser à faire la comparaison avec ce que racontait Benjamin Constant dans son texte très célèbre sur la liberté des anciens et des modernes. Alors, premier changement qui est tout à fait fondamental, les démocraties classiques, elles s'élaborent au sein d'un territoire. Or, les problèmes d'environnement auxquels nous sommes confrontés, et on en a pris conscience finalement assez tardivement vers la fin des années 70, au cours des années 80, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont essentiellement des problèmes globaux. Si on réduit nos émissions de gaz à effet de serre en Europe, et si la Chine ou l'Inde les font exploser, ça n'aura pas grand intérêt, sauf quand même la vertu de l'exemple, qui en l'occurrence pourrait être très importante compte tenu de la responsabilité passée qui est la nôtre. Mais en aucun cas, ça ne serait suffisant. Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que l'information aujourd'hui n'a plus du tout le même poids qu'elle avait autrefois. Si je prends le climat, et évidemment je vais conforter complètement ce qui a été dit par Alain Lipietz, le problème ce n'est pas les générations futures, et j'y reviendrai aux générations futures, c'est nous, dans l'immédiat. Hein, penser que simplement un degré d'augmentation moyenne de la température planétaire à la surface du globe, ça vous donne une grande partie de l'ouest des États-Unis qui va redevenir ce qu'elle a été il y a quelques milliers d'années, c'est-à-dire derrière une mince couche de terre arable, vous avez le désert. Le désert reviendra, ça donne une remontée vers le nord du front polaire, donc très probablement des périodes de sécheresse de plus en plus longues en Angleterre. Ça donne l'accroissement de la sécheresse qu'on connaît déjà en Australie. Ça donne probablement, ce qui est déjà le cas, les cyclones qui remontent vers le Brésil, vers le sud de l'Espagne, qui pourraient s'étendre à l'ensemble du bassin méditerranéen. Et un degré, c'est déjà évidemment, comme vous le savez, pillé, même malheureusement probablement beaucoup plus. Mais on y va tout droit. Les dégâts du climat, on les connaît déjà, mais dans une vingtaine d'années, ils risquent d'être beaucoup plus élevés et très, très sensibles. Et l'enjeu du climat, c'est tout simplement ce qu'on appelle la réduction de l'écoumène, c'est-à-dire de la partie de la Terre qu'on peut habiter en permanence. Par la montée des eaux, vous savez qu'on a complètement réévalué la fourchette, on pense que d'ici à la fin du siècle, c'est entre 1 et 2 mètres, et par ailleurs, avec une redistribution totalement différente, si vous voulez, des régimes des pluies, donc avec une extension gigantesque de certaines zones arides. Et quand l'Union européenne, alors avec la fiabilité dont il vient d'être question, hein, essaie de promouvoir l'objectif des 2 degrés à la fin du siècle, très difficile, c'est tout simplement parce qu'on a peur, si l'on dépasse les 3 degrés, de rentrer dans une série de rétractions positives qui nous fera aller beaucoup plus loin. 3 degrés, c'est très probablement un assèchement, un devenir aride de la forêt amazonienne, donc un dépérissement de cette gigantesque réserve de carbone, ce qui effectivement fait monter, comme vous l'imaginez, le degré de concentration du carbone dans l'atmosphère. Du coup, eh bien, ce qui existe déjà à petite échelle, des cheminées de méthane, alors cette fois-ci, ça devient gigantesque, on pourrait passer donc de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 6, et après on est tous en string en Antarctique ou en Arctique. Donc c'est vraiment ça qui est l'enjeu. Alors, l'information, on voit bien que sur cette question-là, en plus, il ne suffit même pas de la connaître, mais que l'enjeu du climat soit un enjeu quasi-immédiat dans ses effets, mais déjà totalement immédiat dans la prise de décision, pour réduire, ça ne se fait pas en 2 ans, 5 ans, ça se fait sur 20, 30, 40 ans. Et donc la décision, elle doit être prise immédiatement, à Copenhague, pour Kyoto 2, pour dire les choses de façon rapide. Donc on est dans un timing qui est déjà un timing extrêmement serré. Or, pour le comprendre, il faut à la fois connaître un certain nombre d'informations, et d'autre part, comme le disait Dupuis, il ne suffit pas de les connaître. Encore faut-il y croire. Encore faut-il y adhérer. Encore faut-il en faire découler les conséquences qui, normalement, devraient s'imposer, ce qui est une affaire qui est tout sauf mince. Ensuite, de manière générale, c'est la production de savoir scientifique. Aujourd'hui, le problème des sciences, c'est pas tant de découvrir un réel préexistant que d'inventer, de produire le réel. Qu'est-ce qu'une science sans contrôle démocratique, je vous le demande? Que signifie la démocratie si, par exemple, on donne libre cours au programme que les Nord-Américains appellent le transhumanisme? C'est-à-dire de faire naître un genre post- ou transhumain, évidemment, qui ne concernerait qu'une petite partie de l'humanité. Ne vous faites aucune illusion à cet égard. Donc on voit bien que ce genre de questions n'avait pas du tout à être géré par les démocraties représentatives classiques. On sort du cadre du contrat social tel qu'il était pensé, avec le cahier des charges qui était le sien, maximiser consommation, production. On a de manière générale, effectivement, le défi des générations futures. Alors, même si les problèmes sont pour aujourd'hui, n'empêche que si je reviens au climat, hein, le GIEC ou l'IPCC nous donnent toujours les fourchettes de température concernant la fin du siècle. Mais attendez, d'ailleurs ils se demandent maintenant si c'est franchement une bonne manière de faire. Ça continue. Hein, regardez par exemple au Pliocène, vous aviez une température qui était de 3 degrés supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui, avec un degré de concentration de CO2 dans l'atmosphère qu'on a déjà gaillardement dépassé, puisque c'était 360 ppm, on est tout proche aujourd'hui des 390. Donc attention, l'objectif fin de siècle sympa, mais pour ceux qui viennent derrière, ça sera de toute façon très largement dépassé. Donc la question des générations futures reste, mais vous ne pouvez pas trouver un casse-tête pire que celui-là. Parce que la notion de représentation par rapport aux générations futures n'a pas de sens. En tout cas, elle est très, le propre de la représentation, comme le disait Rosan Vallon, c'est de dysfonctionner par essence. Mais là, franchement, le dysfonctionnement est un peu lourd. Si je veux donner le poids aux générations, il n'y a pas de représentativité sans une pondération numérique. Pas sinon de principe majoritaire. Alors là, franchement, si tant est que le scénario que j'indiquais tout à l'heure ne se réalise pas, ils sont largement beaucoup plus nombreux que nous le sommes. Si moi, je m'estime le représentant des générations futures, j'ai une majorité écrasante par rapport à vous. Je peux vous imposer tout ce que je veux au nom des générations futures. Autre problème, autre, si vous voulez, condition de possibilité, un bon usage de la notion de représentation, outre la pondération numérique, c'est le contrôle. Les élections, elles n'ont pas lieu qu'une fois. Elles se reproduisent. Or, le problème de l'expression « génération future », revenons à un logicien du début du XXe siècle, Gottlob Frege, voilà, il y a certains signes qui ont un sens, mais qui n'ont pas de référent, qui ne renvoient à aucune réalité concrète. Si je vous parle maintenant de l'actuel roi de France, vous allez peut-être m'envoyer à l'HP, mais vous comprenez quand même ce que je dis. Mais il n'y a pas de référent. Or, ce qui est très gênant politiquement, c'est que les mots les plus forts, les plus symboliques, sont précisément des expressions qui ont un sens, mais qui n'ont pas de référent, comme les générations futures, et donc qui permettent une forme d'emploi sans contrôle. Et puis, je dirais de manière plus générale qu'on est dans un contexte global qui n'a vraiment plus rien à voir avec la modernité, mais en même temps, qui préserve le contexte moderne. Je m'explique, la chose n'est pas simple à comprendre. Si je reviens à la démocratie grecque, ce qui la caractérise, c'est la finitude. La pensée par excellence de la finitude, c'était la pensée d'Aristote. Et les anciens, les Grecs, imaginaient, si vous voulez, que la technique humaine était quelque chose de rivé à ce qu'ils appelaient le monde sublunaire, mais qu'elle n'était là, en fait, que pour parachever la nature, mais dans les limites même de la nature. Et que son aire d'exercice était en quelque sorte infime. En revanche, les modernes ont vu dans la technique ce qui allait nous permettre de transgresser toutes les limites. Et si l'on regarde, peut-être en ramassant les choses un peu rapidement, si l'on regarde la dynamique de la modernité, ça a précisément été une transgression, un programme de transgression indéfini, tous azimuts, de toute espèce de limite. Prenons effectivement la manière dont on a conçu les lois de la nature. On les a conçues comme ce qui allait nous permettre d'étendre, comme le disait déjà Bacon, l'empire du savoir-faire humain, de faire reculer les bornes de la nature. On a vu finalement dans les lois de la physique ce qui allait nous permettre de transgresser indéfiniment les contraintes que nous imposait la nature. On a eu de cesse de délégitimer toutes les constructions éthiques, quelles qu'elles soient. On a eu cesse de délégitimer tous les canons esthétiques. On a conçu le sport comme une transgression indéfinie des limites imposées au corps humain. Et finalement, la notion qui exprime de la manière la plus générale ce programme de transgression tous azimuts, c'est la notion de croissance économique. Une croissance indéfinie. Effectivement, on consomme du capital naturel, mais on va lui substituer du capital reproductible technique. C'est ce même fantasme. Il est toujours là. Il est toujours très présent. Mais en même temps, nous sommes et nous habitons dans une planète qui n'a plus rien à voir avec celle que nous habitions encore peut-être même il y a 30, 40, 50 ans. Disons que les choses ont commencé à se retourner à compter de la moitié du XXe siècle. Une planète effectivement confrontée à une finitude des ressources, pour pas mal de ressources minérales, de métaux précieux, semi-précieux, voire de certains métaux lourds, eh bien la disponibilité à consommation constante se situe entre 15 et 30 ans. Très probablement, le pic pétrolier sera atteint vers les années 2015. En tout cas, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend dans la bouche de certains responsables de Total. C'est ce qu'on trouve dans un rapport, le rapport que reproduit Shell, dans celui qui est paru en octobre dernier. C'est, on vient de le voir, la finitude avec la question du climat. C'est une planète avec 7 milliards d'hommes, mais très probablement, au milieu de ce siècle, 9 milliards. C'est un problème avec une planète. Le mot lapsus est intéressant. C'est vraiment une planète très problématique avec des écosystèmes exsangues et donc des services écologiques qui sont de manière générale en très mauvais état. Pensez par exemple, encore une fois, aux ressources halieutiques. Donc ce contexte-là, nous n'avons jamais eu à faire. Une planète en quelque sorte pillée d'un côté, bondée de l'autre. Donc on est confronté à une finitude à laquelle on n'a jamais été confronté, avec, qui plus est, une technoscience, en même temps, extrêmement puissante et donc extrêmement ambivalente. À la fois pouvoir de destruction, et puis finalement aussi une certaine forme d'espoir, avec les limites que j'ai indiquées tout à l'heure. Alors, dans un tel contexte, la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et ça a été rappelé tout à l'heure, eh bien, n'est plus du tout à l'échelle. Alors, c'est assez facile de le dire. Trouver des parades, la compléter, l'articuler avec d'autres modalités, la chose est franchement pas simple. Et évidemment, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une institution. C'est en multipliant, effectivement, un certain nombre d'institutions, c'est en modifiant des institutions actuelles qu'on peut espérer avoir un correctif. Alors moi, ce qui me semble très important, une des choses pour lesquelles je plaide, c'est effectivement une certaine forme de démocratie participative, celle qui s'accompagne d'une, en quelque sorte, d'un partage de l'information, fût-elle à l'origine extrêmement complexe. Il n'y a pas d'information, si complexe soit-elle, qui ne puisse donner lieu à une certaine forme de débat public. Alors je regrette fondamentalement que le gouvernement ait ouvert une conférence, prétendue conférence de consensus sur la contribution climat-énergie de la Fondation Nicolas Hulot, alors que ce n'est en rien une conférence de consensus, c'est une conférence d'experts. Alors sur un sujet au contraire, qui était un sujet rêvé pour une conférence de citoyens au sens classique, dès qu'on touche la fiscalité, on touche effectivement l'ère de pouvoir de chacun de nous, et c'est quelque chose d'essentiel. Ce que, pour ma part, je vois dans la démocratie participative, à condition qu'elle soit encadrée de telle sorte que le commanditaire ne soit pas obligé de suivre le résultat, mais soit obligé de répondre, de contre-argumenter, c'est la possibilité de faire circuler certaines informations dans l'espace public, et c'est une espèce de mécanisme qui oblige à de l'argumentation et à de la contre-argumentation sur des sujets qui sont des sujets capitaux pour chacun de nous. Mais effectivement, j'imagine aussi très bien qu'on pourrait effectivement voir dans le Sénat, par exemple, non pas une chambre censée représenter les territoires, mais une chambre de la durée, une chambre qui aurait à statuer sur les enjeux de long terme et qui viendrait en quelque sorte équilibrer. Alors de quelle manière, je n'en sais rien. C'est en quelque sorte une idée lancée à la cantonade. Ce que je veux dire, c'est que partons, acceptons ces dysfonctionnements. Ce type de démocratie n'est pas du tout à la mesure des enjeux qui sont les nôtres. Ça ne veut pas dire qu'il faut la bazarder, mais qu'il faut la faire évoluer. Et là, le chantier est ouvert. Il n'y a aucun projet clé en main. Il y a la nécessité d'expérimenter un certain nombre de choses avec, comme je le disais, malheureusement, un timing qui est extrêmement serré. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Peut-être rapidement un retour entre vous, trois intervenants, si vous le voulez bien, avant qu'on donne la parole à la salle. Il semble qu'il y ait un point commun entre vos trois interventions qui est l'interrogation compliquée, en effet, comme Dominique Bourg vient de l'énoncer, de l'échelle, en fait. L'échelle de décision, quelle est la bonne échelle de décision, quelle est la bonne échelle de contribution au débat. Et un exemple de cette complexité-là est sans doute en effet la question du climat. Parmi les outils qui ont été réfléchis pour réguler le changement climatique, il y a le fameux marché de quotas d'émissions. Ce marché est aujourd'hui, ces marchés en fait existent à des niveaux locaux. mais dysfonctionne pour autant qu'on puisse en juger à ce stade-là, compte tenu du fait que les prix du carbone auxquels ils sont parvenus restent extrêmement bas et donc peu contraignants. Et l'échec, en quelque sorte, en tout cas de ces premières moutures de marché aujourd'hui, semble relancer la question d'une fiscalité, une fiscalité écologique, une fiscalité qui mettrait un prix réel, un peu plus véridique au carbone, qui du coup remet en jeu la question de l'État, puisque qui dit fiscalité dit a priori État, décision nationale, décision étatique. Or, en même temps, ce qu'on vient de dire, c'est que l'échelle de l'État et l'échelle nationale n'est pas forcément la meilleure pour aborder une question globale. Alors, comment est-ce qu'on fait, quelles sont les pistes de réflexion pour une articulation à la fois plus démocratique et plus efficace entre échelle locale, échelle même de la copropriété évoquait Alain Lipietz, et cette problématique plus globale. Enfin, comment est-ce que tous les trois vous analysez ça?
Tenter de répondre en tout cas. Un mot avant peut-être de réaction, notamment par rapport à l'intervention de Dominique Bourg, mais aussi d'Alain Lipietz. En fait, la question, et c'est vrai que c'est une question moi, qui me hante de plus en plus, c'est à mesure que nos connaissances deviennent plus précises sur les désastres qui s'annoncent, est-ce que ça nous pousse à l'action ou est-ce que ça paralyse totalement l'action? C'est la question que je me pose, c'est est-ce que à mesure qu'on pousse la connaissance scientifique, il y a un exemple tragique de ça qui est le degré de précision de la destruction de la ressource halieutique et du rythme. On pourrait tracer une courbe et dire tel jour on a tant d'espèces de poissons qui sont détruites et qui ne se reconstitueront pas, et plus on affine la connaissance et plus la destruction est grave. Et il y a une vraie question qui est: qu'est-ce qui pousse à l'action? Est-ce que c'est la diffusion large de la connaissance scientifique et le fait qu'on a le sentiment que la catastrophe est devant nous, ou est-ce qu'au contraire ça paralyse totalement l'action? Et donc du coup, c'est vraiment une question moi, que je me pose de plus en plus, c'est-à-dire si on vous dit en 2020 ou en 2025, en 2030, les choses changent de manière dramatique, est-ce que vous allez surconsommer encore plus aujourd'hui, ou au contraire, est-ce que vous allez faire les efforts nécessaires? Donc c'est une vraie question. Et en même temps, donc du coup, c'est vrai que c'est difficile de présenter ces enjeux-là sans présenter un certain nombre d'instruments, c'est-à-dire en présentant que le problème et pas du tout la solution. Il y a des solutions. Les solutions dont on dispose au niveau démocratique, elles sont en effet pas très avancées. Au niveau économique, elles sont quand même un petit peu plus avancées. Et alors donc la question que pose Jade, c'est en effet de quels instruments on dispose. On dispose de trois instruments économiques principaux. Le premier instrument, c'est la régulation, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'imposer des normes de pollution pour les voitures. Donc il y a une décision européenne qui a dit il ne faut pas que les voitures polluent plus que 130 grammes de CO2 au kilomètre. Donc ça, c'est typiquement une solution de régulation qui est applicable à certains types de pollution et pas à d'autres. Mais en même temps, c'est très contraignant. On ne peut pas non plus vivre dans un monde autoritaire dans lequel on fait des normes pour tout. L'autre solution, c'est la solution qu'on appelle la solution pigouvienne, c'est-à-dire en effet de Arthur Cécile Pigou, qui dans les années 20 a écrit un livre sur la question de la fiscalité environnementale, c'est-à-dire des taxes behavioristes, c'est-à-dire la fiscalité qui change les comportements. Et donc la question, c'est: vous voulez qu'il y ait moins d'un mal, donc vous taxez le mal, et donc vous voulez qu'il y ait moins de carbone, vous faites un prix du carbone, une taxe sur le carbone. Et puis la troisième solution, c'est la solution causienne de Ronald Coase, d'un article de 1960 qui s'appelle Le problème du coût social, et qui est le fait de dire: en fait, on peut faire des marchés de permis à polluer et distribuer. En fait, il ne faut pas faire des taxes parce que ça n'est pas efficace, mais on peut distribuer les droits de propriété entre des acteurs, fixer un plafond, cap, et ensuite permettre aux acteurs d'échanger les permis, trade. Et alors, le paradoxe de la situation actuelle, c'est que si on se replonge au début des années 90 et qu'on a le choix entre d'un côté la solution pigouvienne et de l'autre la solution causienne, donc d'un côté entre la taxe carbone et de l'autre le marché du carbone, en fait, l'Union européenne poussait au début des années 90 pour l'institution d'une taxe carbone mondiale. Il y avait la Commission européenne qui disait: on va plutôt faire ça quand il s'est avéré que le changement climatique est un problème dramatique. La question des instruments au niveau global s'est posée et la Commission européenne a dit: on va faire une taxe carbone. Et à l'époque, l'idée, c'était que les Européens étaient pour la taxe carbone, alors que, disons, les Américains étaient davantage pour les marchés permis à polluer. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne a soutenu Kyoto, enfin les États-Unis aussi à l'époque, puisque c'était l'administration Clinton, et en fait, le marché du carbone européen découle de Kyoto. C'est-à-dire que Kyoto, on a dit, le premier mécanisme de flexibilité de Kyoto, c'est précisément le marché du carbone. Et donc, c'est l'Europe qui se retrouve, en 2005, à créer le premier marché du carbone, alors qu'elle était à l'origine favorable à la taxe. Et toute la question aujourd'hui, à mon avis, c'est: comment est-ce qu'on fiscalise les marchés du carbone, parce qu'on se rend compte que ces marchés du carbone ne marchent pas. C'est-à-dire qu'on se rend compte que foncièrement, alors là, le dysfonctionnement, je crois, est assez dramatique, et que, par exemple, donc pour vous donner un exemple de dysfonctionnement, on est en récession mondiale. On est aussi en récession européenne. Les émissions des entreprises qui sont dans le marché du carbone baissent. Mais on a alloué des permis de façon fixe, donc les émissions sont inférieures aux allocations de permis, donc le prix de la tonne de CO2 s'effondre. Et donc on a une tonne de CO2 aujourd'hui qui végète autour de 11 euros, alors que, par exemple, la commission Quinet dit le bon prix du carbone en 2010, c'est à peu près 30 euros la tonne. Donc on est à 3 fois moins. Donc le signal prix du carbone est complètement brouillé, parce que ces marchés, on n'a pas fixé de prix plancher. Par ailleurs, on ne les a pas mis aux enchères, etc., etc. Donc d'abord, on ne peut pas simplement dire on les détruit et on oublie le marché du carbone. Il faut, je pense, le fiscaliser. Et l'articulation, c'est de dire il y a certaines pollutions qui sont bien traitées par les marchés du carbone. Par exemple, les grandes pollutions centralisées, comme l'énergie, etc., à condition que les marchés soient fiscalisés. Et puis, il y a des pollutions qui sont plus difficiles à traiter par les marchés parce qu'elles sont diffuses. Et c'est celles dont parlait Alain Lipiette, c'est-à-dire les pollutions les plus dynamiques, aujourd'hui, en France et en Europe, c'est-à-dire les transports et l'habitat. C'est difficile de faire rentrer 500 millions de personnes dans un marché du carbone. Donc, pour ça, on a un outil qui est la fiscalité. Mais simplement, les fiscalités environnementales aujourd'hui existent. La Suède en a, le Danemark en a, le Royaume-Uni en a. Simplement, elles représentent très peu de choses. Aujourd'hui, c'est 2-3% du PIB dans l'OCDE. Donc elles existent. Simplement, il faut les faire monter en puissance très très vite. Et à mon avis, la seule voie praticable, c'est la fiscalité. Et je crois que plus vite on ira vers l'idée qu'au niveau global, on peut fixer des cibles contraignantes, mais que pour ce qui est des instruments, il faut que ce soit au niveau régional et au niveau national, en articulant dans un premier temps des marchés du carbone fiscalisés et des fiscalités fortes pour les pollutions diffuses, je pense qu'il faut aller vers cette solution-là, il faut y aller vite.
Oui, juste un petit complément. Quand on passe des émissions concentrées, pour le moment, le marché du carbone concerne les grands industriels, les producteurs d'électricité, de ciment, d'acier, les papetiers, etc. Mais tout ce qui est émissions diffuses, bon, n'est pas, en quelque sorte, n'est pas encadré. Alors, d'un côté, on a la taxe, par exemple, ce que propose la Fondation Nicolas Hulot avec sa contribution climat-énergie. L'idée, c'est de rendre l'accès aux énergies fossiles de plus en plus élevé chaque année, mais en redistribuant et de façon arithmétique le fruit de la taxe prélevée sur les individus et les ménages. Et puisqu'on la redistribue de façon arithmétique, on a aussi un effet redistributif au sens propre du terme. C'est-à-dire que plus vous avez de pouvoir d'achat, plus vous consommez, et moins en prorata vous recevrez, et vice-versa, effectivement, si votre pouvoir d'achat est plus faible. Donc on a cette solution-là. Les Anglais, mais je ne pense pas du tout qu'ils mettront ça un jour en fonction, je ne sais pas ce que les économistes là présents me diront, mais il y a l'idée d'étendre aux individus le quota. Imaginez qu'au-delà de votre puce monétaire sur votre carte, vous ayez une puce carbone et qu'on alloue à chaque individu, on va voir que la chose n'est pas simple, qu'on alloue à chaque individu un quota. Et chaque fois que vous allez acheter directement de l'énergie, soit de l'essence, du gazole ou un mètre cube de gaz, etc., eh bien, à chaque fois, on défalque sur cette carte des quotas au prorata. Donc, effectivement, si, je ne sais pas, moi, vous habitez la City, vous avez un chalet à Verbier, une maison à Miami, et si vous y allez de temps en temps dans l'année, vous risquez très, très vite, dès la fin janvier, d'atteindre votre quota. Alors, Dieu merci, le monde est ainsi fait qu'il existe moins de riches que de pauvres. Alors évidemment, tout ça, c'est entre guillemets. Et donc, vous allez racheter des quotas aux pauvres. Éthiquement, c'est quand même quelque chose que, pour ma part, je trouve complètement scandaleux. C'est-à-dire que, du coup, il faut bien d'ailleurs avoir ça en tête aujourd'hui. La richesse, on peut estimer que c'est un bien, mais en même temps, c'est aussi des maux.
La
compensation, c'est encore autre chose. Mais la richesse, ce n'est pas simplement des biens, c'est des mots. C'est déjà ce que disait Bertrand Jouvenel il y a une cinquantaine d'années. Mais bon, et donc, plus vous consommez par votre richesse, plus vous détruisez. Et donc, est-ce que la richesse, alors, sur un sujet aussi sensible que le carbone, donne à certains individus un droit de détruire qui serait beaucoup plus important que les autres? Je pense qu'éthiquement, c'est quand même quelque chose qui est pour le moins sujet à caution. Alors, le seul moyen de faire marcher cette affaire, c'est que si vous restreignez si vous voulez, le spectre du possible. Hein, c'est-à-dire, eh bien, si vous ne pouvez pas échanger au-delà d'un certain seuil, ou au contraire, si vous prohibez dans une société, peut-être qu'un jour cela arrivera, vous prohibez les comportements les plus émetteurs. Alors effectivement, cette histoire de marché et d'échange a un sens, parce que c'est simplement une marge d'ajustement, hein, si vous voulez être plus vertueux qu'un autre. Bon, mais autrement, c'est quelque chose qui serait éthiquement tout à fait scandaleux. Et en plus, sur un plan économique, ça semble quand même une véritable usine à gaz. Hein, sur quels critères va-t-on allouer à telle famille tant de quotas, à telle autre, en fonction de ses conditions et tout, ça paraît quelque chose de très, très difficile. En revanche, une proposition comme la contribution climat-énergie, qui est une proposition dynamique, hein, l'idée, c'est que chaque année, l'accès à l'énergie fossile devient plus élevé, mais en même temps, vous avez en quelque sorte le beurre et l'argent du beurre, hein, le signal prix joue, puisque chaque fois vous payerez plus cher, mais à la fin de l'année, vous avez quand même la ristourne. Ça me semble un instrument plus adéquat. Et l'idée, finalement, eh bien, c'est d'inverser le chemin par rapport à ce qu'on a connu au XXe siècle, où on a eu, durant tout le siècle, un baril de pétrole, lapsus intéressant, à 20 dollars constant. Et donc, du coup, c'est ça qui permet de comprendre le type d'industrialisation qu'on a, le type d'urbanisme qu'on a. L'idée, c'est, sur plusieurs décennies, 3, 4, 5 décennies, inverser, en quelque sorte, la tendance avec un instrument comme celui-là. Je pense que c'est plus efficace, ça pose moins de problèmes qu'une extension, à mon avis, très hasardeuse du système des quotas et des marchés aux individus.
Alain Lipiet.
L'Union européenne, elle a choisi très clairement ça. Hein. On dit, premièrement, pour ce qui est du gros, c'est les quotas, et pour ce qui est du diffus, c'est la taxe. C'est, alors, avec cette différence que l'Union européenne a une constitution tellement bizarre qu'on définit les quotas, ça se gère au niveau européen, et la taxe, c'est national. Bon, alors c'est très embêtant, hein, parce que, par exemple, la TIPP, qui est la taxe carbone, hein, disons, sur l'énergie, n'est pas la même en Belgique et en France. Donc un camion, quand il arrive d'Angleterre à la sortie du tunnel, il va faire son plein en Belgique pour ensuite retraverser toute la France pour aller en Italie. Mais on n'a pas le droit, pour l'instant, l'Union européenne n'a pas d'instrument pour unifier ces taxes entre la Belgique et la France. Alors que les quotas, comme c'est, comme on dit, à la codécision et à la majorité, c'est-à-dire que c'est le Parlement et le Conseil, tous les deux votant la majorité, qui décident, on est en train, à toute vitesse, de perfectionner le système des quotas. Alors il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec Éloi. Le quota, c'est ce qui est le plus politique. C'est ce que les Soviétiques appelleraient la planification en quantité. Ça revient à dire l'Union européenne, enfin la Commission, l'exécutif, avec l'accord du législatif, dit en 2010, la totalité du gaz carbonique produit par la grande industrie, ça sera tant, en 2011, ça sera tant, en 2012, ça sera tant, etc., etc. Et on répartit. Et en plus, en France, ça sera tant pour cent, et en Angleterre, tant pour cent, et en Belgique, tant pour cent, etc. Autrement dit, c'est de la planification, c'est comme le Comic-Con, hein, la planification des quotas. Alors évidemment, il y a une flexibilité énorme, en ce sens que vous êtes une industrie cimentière, au mois de novembre, il vous reste des quotas. Votre concurrent, quelqu'un de l'industrie de l'acier, par exemple, une entreprise sidérurgique qui a dit « Ah, je viens de faire un gros contrat, il me manque un peu de quotas, je suis un peu juste pour mon année », peut la racheter à l'industrie cimentière. Enfin bon, on peut circuler. Bon, alors, évidemment, le gros du problème du quota, c'est que, alors on l'a dit tout à l'heure, là je suis d'accord avec Éloi, si pour une raison alors totalement macroéconomique, brutalement, on a besoin de beaucoup moins de quotas qu'on avait prévu au départ, bon, crise qui intervient au mois d'août 2008, hein, s'il était intervenu en janvier, ça aurait été beaucoup plus grave, mais c'est intervenu au mois d'août 2008, paf, toute l'économie mondiale s'effondre. Donc évidemment, le marché des quotas, les marchés des quotas s'effondrent. Mais c'est exactement la même chose pour le prix du pétrole, c'est-à-dire au détail. Hein, le prix de l'essence s'effondre aussi. Et rappelez-vous qu'au mois d'août, on se demandait s'il allait falloir donner une aide aux gens pour qu'ils remplissent leur cuve de mazout pour l'hiver. Après le mois d'août, évidemment, tout le monde s'en foutait, puisque de toute façon, le mazout s'effondrait, le prix du mazout s'effondrait. Bon, donc, on a le problème des deux côtés, au détail et en gros. Alors, pour le détail, le mieux, c'est la TIPP flottante, c'est-à-dire, on lisse les variations du prix de l'essence ou du mazout par des variations du prix de la taxe, de façon à ce que ça soit progressivement montant, mais sans un coup. Et je pense qu'il faut aussi lisser le marché des quotas. Il y a un tas de propositions du genre mettre un prix plancher pour les quotas, etc. etc. Bon, alors quand même, Un point sur lequel je voudrais insister, parce qu'on a employé souvent l'expression « nous », on a une petite discussion sur est-ce que c'est une guerre entre les jeunes et les vieux, est-ce que c'est une bataille entre les gens du présent et ceux du futur, est-ce que c'est une bataille entre nous en tant que jeunes et nous en tant que vieux. Hein, bon, c'est vrai qu'il y a toutes ces dimensions-là. Bon, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je voudrais insister sur quelque chose. Je pense que justement, là, le principe de redistribution est... se heurte à ces problèmes-là, mais le principe de réciprocité ne s'y heurte pas. C'est-à-dire que si chacun considère que, quel que soit son âge, il était également responsable par rapport à lui-même, et par rapport aux autres, et par rapport à ses enfants, et par rapport à ses parents, et donc sur les questions écologiques, le taux d'actualisation est 0%, ce qui tend à être le cas. On commence à dire tous les prêts correspondants à Kyoto, qu'ils soient au niveau gouvernemental, qu'ils soient faits par la Banque européenne d'investissement, où le refinancement de la BEI auprès de la Banque centrale européenne devrait être à 0% parce qu'on doit considérer que le prix du présent est le même que celui du futur. Mais ça, c'est une idée qui est en train de passer, hein, y compris, ça fait des années que je le négocie avec Trichet et avec Unistat, et on est en train, là, ça va passer incessamment sous peu. En revanche, la question de la lutte des classes est importante. C'est-à-dire que... Il y a des gens qui s'en fichent, tout simplement, de la dérive climatique. Il y a des gens qui s'en fichent parce qu'ils peuvent toujours se mettre à l'abri. Tu dis qu'on sera tous en slip dans l'Arctique. Non, ça sera pas le cas. Il y a des gens qui auront les moyens d'aller en slip dans l'Arctique. Déjà, par exemple, le vignoble, je suis chevalier du Tassevin de Bourgogne, le vignoble de Bourgogne est en train de négocier son déménagement en Écosse. Bon, c'est-à-dire que On est prêt en y mettant le prix à s'adapter. Il y a des gens qui disent on va s'adapter et qu'on a les moyens. Mais d'autres ne s'adapteront pas, c'est ça le problème. Et je pense que le désastre de décembre, la décision Merkel-Sarkozy de décembre, on laisse tomber, en gros. Hein, parce qu'on a dit c'est pas moins 30, c'est moins 20%, mais c'est pire que ça. Sur ces moins 20%, 90% pourront être faits en dehors, c'est-à-dire en achetant des soi-disant mécanismes de développement propre avec le tiers-monde. Alors que ce que disait le GIEC, c'était qu'il fallait que nous, on fasse entre moins 30 et moins 45%, entre moins 25 et moins 45%, et que le tiers-monde, pendant ce temps-là, baisse de 15% par rapport à ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire hors mécanisme de développement propre. Donc, je crois que c'est un désastre complet. C'est-à-dire, on dit, allez, il est là le glacier, montrez-le. Ah, j'ai failli le rater. Allez, on fonce dedans. Là, on revient vers le glacier, vers l'iceberg. Alors, je crois que là, il y a vraiment une lutte terrible entre les industriels qui ont piloté cette décision catastrophique pour l'avenir de l'humanité et le reste de l'humanité. Et je crois que c'est une lutte. Il y a des divergences d'intérêts.
Il faut vraiment qu'on passe la parole à la salle maintenant, sinon les gens ne pourront pas s'exprimer. Donc, je vous en prie, la parole est à vous. Questions, réactions, commentaires, interpellations. Il y a une question devant.
Garzinski, ingénieur de Général des Eaux et Forêts. On ne peut pas convoquer les générations futures. Par contre, on peut convoquer certaines générations du passé. Alors, on est dans un système où c'est comme quand vous attrapez un lézard par la queue. Il vous reste la queue et le lézard se refait une queue. Alors, je vais prendre trois exemples. Si on regarde les données de l'histoire géologique, il y a eu des réchauffements à l'ère primaire et le dernier il y a 90 millions d'ans, où ça entraînait non pas l'augmentation du gaz carbonique dans l'air, mais sa diminution, parce que les plantes primitives, c'est-à-dire surtout le phytoplancton, bouffait tellement, au sens général, bouffait, ça veut dire avaler, bouffait tellement de gaz carbonique qu'il en manquait, et qu'il était obligé de se rabattre sur le carbone lourd, le C13. Ensuite, un exemple au temps géologique, on a laissé tomber le problème de l'explication de la chute du niveau marin, qui, et ces chutes successives, ont donné l'histoire géologique, ont donné le partage en ère et période. Or, la plupart de ces chutes du niveau marin se passaient en dehors de glaciation, où l'eau partait. C'est une énigme. En fait, second exemple, prenons des données historiques. Alors, un ouvrage fondamental l'effondrement des civilisations, Jared Diamond. Il donne comme explication majeure la déforestation, mais c'est un travail non fini, vous allez comprendre un petit peu après. Autre exemple, c'est la désertification, un ouvrage écrit par l'écologue et forestier syrien Ibrahim Nahal. L'explication majeure de la désertification, c'est le déboisement. Maintenant, je vais prendre un exemple actuel, un exemple magnifique, actuel et plurimillénaire en même temps. Un exemple magnifique de démocratie réalisée dans un certain nombre de pays du monde. Ce sont des plantations d'arbres en forêt. Les derniers peuples forestiers, quand ils exploitent la forêt, sur abattis brûlis, ils plantent des arbres. Des paysans en Afrique, en Amérique latine et en Inde replantent des arbres dans les champs. Pourquoi faire ? Eh bien, l'INRA a démontré que si on plante des brise-vents distants d'environ 200 mètres, que ça double ou triple la récolte des champs. Si l'INRA disait ça haut et fort, ça coûterait en l'air l'industrie des engrais. Alors, si vous faites un raisonnement sur plusieurs décades, vous arrivez à comprendre que les engrais, finalement, ne servent à rien. Qu'ils ne servent à rien. Alors, les écologistes, y compris Philippe Desproges, par exemple, n'osent pas en parler. Mais comment on démontre ça ? Eh bien, la révolution verte, au bout d'une cinquantaine d'années, ça ne marche plus. Alors voilà donc ces exemples-là que je rappelle, Afrique, Amérique et Asie. C'est que quand on raisonne forêt, il faut sortir de la forêt. Vous n'avez rien compris si vous raisonnez sur la déforestation tropicale sans intégrer les arbres hors forêt. Vous êtes dans une situation, votre information est tout à fait insuffisante pour comprendre ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Merci.
Merci, monsieur. Merci. Oui, derrière.
Oui, le débat qui est posé là interroge sur la démocratie des choix. Et il me semble que compte tenu de la théorie économique dominante qui fait que d'une certaine façon, on peut substituer les facteurs, un capital technique, surtout un capital naturel par un capital technique, je pense qu'aujourd'hui, la démocratie des choix concernant la science et la technologie est importante. Et d'ailleurs, peut-être que les problèmes aujourd'hui de l'université de la recherche sont peut-être un peu liés à ces questions-là. La question est de savoir que fera la science pour répondre également aux problèmes qui nous sont posés. Parce que je pense qu'il serait un peu rapide de dire que les solutions sont simples et que les solutions... tous les problèmes, qu'ils soient climatiques ou même de la finitude des ressources, sont quand même des questions complexes et ne peuvent pas être résolues très, très rapidement. Et donc, il me semble que l'interrogation du choix de la science aujourd'hui sera très importante. Et peut-être, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on peut poser d'une certaine façon la question de façon peut-être un peu simpliste, hein, mais est-ce que la science va venir au secours d'une certaine façon, de la restauration du bien commun et des ressources naturelles, ou est-ce qu'au contraire, la science va accélérer la substitution du capital naturel par un capital technique ?
Merci. On va prendre peut-être d'autres questions et interventions de manière à ce qu'ensuite on réponde en groupe à la tribune, là-haut.
Oui, une question très simple. Va-t-on réellement avoir des guerres lorsque le nombre d'hommes est trop supérieur aux ressources de la planète, l'histoire nous a montré qu'on avait des guerres. Allons-nous vers une guerre ?
Merci. Je crois qu'il y avait, oui, devant, voilà, au deuxième rang, troisième rang, sur le côté.
Oui, enfin, moi, je voudrais remercier les trois intervenants parce que étant engagé depuis une cinquantaine d'années avec des Nations Unies et aussi des ministères de l'Environnement dans des problèmes de prise en compte de ces questions environnementales en général, je voudrais simplement remarquer aux trois intervenants que chacun a pris des positions à caractère sémantique qui sont sinon compatibles, mais parfois complètement antagonistes. Et je le prends dans votre titre. Les ressources naturelles. Alors, en 1966, c'est ça, nous discutions à l'UNESCO de ce problème de ressources naturelles. Alors, les uns disaient, mais ressources, c'est uniquement ce qui profite à l'homme, en dehors de l'exploitation des éléments de la terre, c'est ce que j'appellerais plutôt, moi, ce que vous appelez les ressources, il n'y a pas de ressources. À partir du moment où l'homme commence à s'intéresser à quelque chose, ça devient une ressource. Alors, quant au naturel, alors là, moi, je sursaute. Et je vais vous dire pourquoi. En 1970, le ministère de l'Environnement français, M. Poujade, m'a demandé, avec trois autres collègues, de créer un institut des paysages. Bien. Trois ans ont duré les discussions à l'intérieur de ce groupe pour savoir si les paysages, c'était naturel ou artificiel. Des discussions totalement stériles. À partir du moment où vous excluez les paysans, évidemment, en tant que petit urbain qui allait jouer aux petites fleurs le week-end, un paysage, c'est évidemment naturel, c'est tellement beau, tellement joli, sauf qu'il y a parfois des moustiques et des serpents. Enfin, ça, on n'aime pas trop en parler, si vous voulez. Alors, je pense, si vous voulez, que l'autre dimension que vous introduisez dans vos discussions, c'est le problème de la démocratie. Bien. Mais quelle démocratie ? Celle qui renouvelle les élections tous les 4 ans, les 5 ans, les 6 ans ? Mais comment voulez-vous, à l'intérieur de cette contrainte majeure, qui est donc la contrainte de temps, je parlerai tout de suite après de la contrainte d'espace, prendre une décision à long terme quelconque, que ce soit au niveau de l'Europe, monsieur Lipiès, dans votre Parlement, que moi j'appelle le Parlement croupion, parce qu'il décide de quoi, il fait quoi, il représente les partis, il ne représente pas du tout des problèmes, des objets. Bien. Alors, dernier point, les sols. En 1966, on m'a envoyé à Moscou pour essayer de voir comment les Russes enseignaient les ressources dites naturelles. Bien. Alors, les Russes, ils m'ont rigolé. Ils ont dit, nous, les ressources naturelles, il n'y en a pas chez nous. Sauf qu'arrivé au Gosplan, au plus haut point, si vous voulez, de la planification soviétique, j'ai rencontré un monsieur qui était un grand seigneur et qui m'a dit, je suis le plus grand propriétaire des terres du monde. Pourquoi, monsieur ? Eh bien, parce que je suis au ministère de l'Agriculture fédérale russe, celui qui est responsable de l'utilisation du moindre hectare de terre en Russie. Et si le ministère de l'Agriculture ne donne pas son approbation pour le détournement d'une terre vers une autre application, que ce soit urbaine ou autre, eh bien, ça n'a pas lieu. Alors, je suis revenu avec cette, pour terminer mon intervention, avec cette observation auprès du ministère compétent de l'agriculture en France, etc. Et on m'a simplement rigolé au nez parce qu'on était en train de distraire des meilleures terres françaises, ce que moi j'appelle un petit scandale, c'est-à-dire ce Roissy en France, où l'on a les meilleurs limons de plateau français transformés en béton et en zone de pollution. Merci. Avec cet aéroport, qui est un scandale. Bien, alors, tout ceci, la question
excusez-moi, madame, je suis obligée de vous interrompre parce qu'il faut qu'on puisse...
La démocratie, voilà, qui décide de quoi ?
Merci beaucoup. Une dernière intervention ? Une dernière, vous, monsieur ? Ou... Alors, devant... Rapidement, s'il vous plaît, parce que là, on dépasse le temps.
D'après l'Institut de glaciologie française, lié aux Russes et aux Américains, si la température du globe monte de 3 degrés, dans les 10 ans à venir, il n'y aura plus de glaciers dans l'Himalaya. Or, avec l'Inde qui veut devenir un pays aussi important que l'industrie occidentale, la Chine de la même façon... Eh bien, n'ayant plus de glaciers dans l'Himalaya, le Mékong, le Gange n'auront plus d'eau, 2 milliards de populations sans eau en Asie. Qu'en pensez-vous et que fait l'ONU pour ce problème?
D'accord, merci. Et je crois qu'il y avait monsieur là-bas et ce sera la toute dernière intervention.
Oui, merci. Moi, j'aurais deux questions et je vais les faire courtes, mais qui me semblent être quand même aussi un peu à la racine. La première, c'est le projet. Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est la description. On nous prévoit, etc. Mais quel projet alternatif? Et dans ce cadre-là, je reprends aussi la question sur la technologie. Parce que moi, j'ai lu, j'ai vu, et malheureusement partiellement, mais lorsqu'on croise l'indice de développement humain avec l'empreinte écologique, qu'on met les pays là autour, bien les pays qui sont dans l'espèce de cadran qui correspond un peu au développement durable, au jour d'aujourd'hui, alors, malheureusement, je n'ai plus souvenir de ces pays-là, mais en tout cas, moi, je sais qu'ils ne me donnaient pas envie, si j'ose dire. Hein, on n'était pas dans des pays, on ne trouvait pas la Norvège, par exemple. Hein, on trouvait des pas. Je suis désolé, je n'ai pas les pays, mais en tout cas, je sais que je n'ai pas envie d'aller là. Donc, quel projet alternatif? Quel projet, vers où on va? Et dans ce cadre-là, moi, je suis d'accord, enfin, je vais poser juste la question, mais sur le renforcement de la démocratie, la complexification de la démocratie. Et du coup, là, ça pose la question des motivations des gens. Et dans la motivation, moi, je vois deux choses. D'une part, il y a des gens qui s'en fichent. Donc, il y a des gens qui sont actuellement parmi nous, si j'ose dire. Enfin, peut-être pas parmi cette salle, mais en tout cas, des gens qui sont parmi nous, au sens démocratie générale, qui ont beaucoup de manettes et qui s'en fichent. Pareil pour la crise financière. Il y a des gens qui ont mis des mails en disant « on fait des choses extraordinaires, heureusement qu'on sera à la retraite lorsque ça va exploser ». Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Et de l'autre côté, j'allais dire de l'autre cadran, il y a des gens aujourd'hui qui sont pauvres. Et les histoires de ressources naturelles, ok, c'est bien beau, mais moi j'ai besoin de vivre. Hein. C'est l'exemple de Madagascar. Qu'est-ce qu'on fait? Et lorsqu'on replonge ça dans les démocraties, même dans les pays occidentaux, moi j'ai entendu donc 20% des jeunes aujourd'hui qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Bon, leur première préoccupation, elle n'est pas forcément de leurs enfants, elle est actuelle.
D'accord.
Et là, juste une dernière chose sur toujours le thème de la démocratie, ça rejoint les histoires d'inégalités. Hein, c'est plus on sera, entre guillemets, de mon point de vue, égal, plus on sera à même de pouvoir prendre en compte ces différentes, j'allais dire, enjeux d'aujourd'hui et de demain.
Merci beaucoup. Alors.
Moi, je vous propose de répondre à certaines questions.
À d'autres après.
À trois, notamment, à trois questions, mais très brièvement. La première question, c'est le rôle de la science. Et donc, est-ce que la science va nous montrer le chemin ou est-ce qu'il faut... moi, je ne crois pas du tout que la science, de manière autonome, va nous montrer le chemin. Il y a deux exemples qui, je crois, sont en contradiction avec cette idée. La première, c'est les projets extrêmement inquiétant de géo-ingénierie, de l'idée qu'au fond, la situation est tellement dégradée qu'il faut passer maintenant à la phase ultime où on commence à faire des expériences sur la planète grandeur nature en disséminant dans les océans des petits miroirs dans les nuages, etc., des sortes de projets qui sont des projets d'apprentis sorciers. Et non seulement, alors là, on est dans un cadre, je crois, vraiment de fou furieux du point de vue du rapport aux écosystèmes, mais en plus, c'est une incitation contraire à agir. C'est-à-dire que l'idée, c'est bon, bah, on va laisser tomber l'atténuation, on va laisser tomber l'adaptation, on va faire directement de la géo-ingénierie. Donc typiquement, voilà le genre de projet scientifique non cadré démocratiquement qui, je crois, peut conduire au désastre. Le deuxième exemple, bien connu, c'est les subventions aux agrocarburants donc notamment à l'éthanol à partir de maïs qui a complètement dégradé ce que disait Alain Lipiette, c'est-à-dire qui a été en fait une catastrophe en termes de prix des produits agricoles, et on n'a quasiment pas d'effet sur les gaz à effet de serre, limite ça en émet encore plus. Et si on raisonne sur le cycle total de vie, alors là c'est carrément un désastre parce que ça conduit à l'augmentation des prix. Donc ça prouve que ni les solutions économiques ni les solutions scientifiques seules ne peuvent, donc à mon avis la seule articulation envisageable c'est technologie, économie, démocratie. C'est comme ça que j'envisage les choses, même si c'est un peu général. Sur la question des guerres et des ressources naturelles, va-t-il y avoir la guerre? Il y a déjà des guerres aujourd'hui sur les questions des ressources naturelles. Il y a un rapport des Nations Unies qui vient de sortir qui montre qui recense 18 conflits dans les 30 dernières années qui sont directement le fait d'une guerre pour les ressources naturelles. Donc on a déjà sous les yeux des conflits qui sont... La question, c'est, il y a un doute sur le sens de la causalité. Est-ce que ce sont les guerres qui provoquent des destructions naturelles ou est-ce que c'est la guerre pour le contrôle des ressources naturelles qui provoque la violence? Mais en réalité, je pense que le phénomène est parfaitement clair. Il y a à peu près dans tous les coins ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire les zones critiques de la biodiversité. Il y a des problèmes graves de démocratie et de gouvernance, des problèmes d'insécurité civile, de guerre civile, etc. Donc je pense que de ce point de vue-là, la connexion existe déjà. Et puis dernier point sur votre intervention sur la question démocratie et politique et au fond l'idée la démocratie ça sert à rien parce que peut-être en effet c'est ce que disait Dominique Bourg, ce qu'écrivait Dominique Bourg, il n'a pas repris ce propos mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant dans son papier du Monde sur l'idée il faudrait un président du long terme, il faudrait désigner quelqu'un qui soit responsable du long terme, c'est-à-dire en fait sortir du champ politique un certain nombre de choses pour le faire entrer dans un champ qui serait la démocratie mais la démocratie intertemporelle en disant on n'élit pas des gens qui décident de l'avenir de l'humanité à 30 ans pour 5 ans. Ça n'a aucun sens. Donc il faut des gens qui soient élus pour le long terme, des responsables politiques du long terme. Et ça, c'est une idée très intéressante.
Dominique ?
Oui, juste quelques éléments. Alors, moi, je suis toujours très, comment dire, très inquiet quand j'entends la science. Je ne sais pas ce que c'est la science. Je connais les sciences, des différentes productions, avec des régimes de production très, très différents et tout. Et donc, de toute façon, nous sommes dans une civilisation qui est totalement technoscientifique. Imaginer qu'on va en sortir n'a aucun sens. Après, à partir de là, se pose le problème des fins. Et si on regarde l'affaire des OGM, on voit bien que la difficulté n'est pas forcément simplement environnementale ou sanitaire. Il y a d'autres enjeux qui sont là. Et ça ira de plus en plus dans ce sens. Donc, ce qui me semble très important, c'est les sciences nourrissent des aspects du débat. Mais au-delà de ces aspects, la vraie question, la question la plus importante, c'est quel type de vie on veut vivre ensemble. C'est la question politique et éthique par excellence. Et nos sociétés se sont organisées de telle sorte qu'on s'en remette, grosso modo, pour pas mal de choses, au marché pour décider de ce que le monde pouvait devenir dans un avenir proche. Ça me paraît aujourd'hui plus du tout assumable. Et il y a certaines possibilités des technosciences, même en dehors des problèmes de climat, qui vont venir, qui vont rendre ce mode de fonctionnement complètement crétin. Imaginez par exemple que demain vous apprenez qu'il y a un être transhumain ou une colonie de transhumains qui est née. La manière dont vous allez percevoir votre humanité, dans la seconde même, elle va changer du tout au tout. Et c'est le marché qui doit décider de ça.
Dominique, je suis désolée, il faut
oui. Non, mais simplement, cet aspect-là, et puis d'autres aspects, c'est sur la question des guerres, bon, à la limite, je pourrais redire. En tout cas, je vous renverrai mon rapport que Shell a rendu public, désolée. Qui est très intéressant, avec deux scénarios. Un scénario rué sur la ressource, sans aucune entente internationale, et un scénario contraire à Blueprint, l'autre c'est Scramble, où il y a une organisation des nations pour faire face à la donne pétrolière. Et dans un cas, vous avez un danger de guerre imminent, dans l'autre, non.
Merci. Alain, trois mots.
Alors, trois mots, bon... Sur la science, bon, c'est quand même la science qui nous a prévenu qu'il y aurait l'effet de serre. C'est la science qui nous a dit « attention, les agrocarburants, c'est une connerie ». Donc le problème n'est pas la science, mais l'articulation entre la science et le débat public. Deuxièmement, sur la guerre. Bon, il y a la guerre comme mode de régulation, c'est très classique. La maladie aussi. Hein. Je pense que les grandes menaces de pandémie sont exactement comme la peste noire du XIVe siècle, La forme de régulation d'une mauvaise gestion du territoire par l'humanité. Alors, sur la démocratie, il ne faut pas s'exonérer de ses propres responsabilités. Il y a de la démocratie, on a choisi des députés, vous pouvez dire que ces députés forment un Parlement croupion, c'est ce Parlement qui, quelquefois, participe au crime de décembre dernier, mais c'est vous qui les avez choisis, ces députés-là, quand le PPE, le PSE et la LDE, c'est-à-dire l'UMP, le Modem et le PS, votent le compromis Merkel-Sarkozy. Ce sont ceux que vous avez élus qui ont choisi de ne pas lutter contre le changement climatique. Mais ne dites pas après, je n'y étais pour rien. Vous les avez choisis. Et ils avaient le moyen, ces députés, de renverser le compromis Merkel-Sarkozy. Un certain nombre d'autres députés ont dit « mais c'est un scandale, mais vous êtes en train de tuer les générations futures, etc. » Mais c'est vous qui les avez choisis. Ne dites pas que c'est un Parlement croupion, etc. C'est vous qui les avez choisis. Et d'autre part, ça se répercute très directement au niveau du sol, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une assemblée de colocataires ou de copropriétaires, quand vous dites « est-ce que vous êtes prêt à augmenter, à mettre tant d'argent pour isoler vos logements, pas seulement parce que ça va vous coûter moins cher dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent pour payer votre mazout, mais parce que c'est nécessaire pour la survie de la planète dans les conditions humaines, est-ce que vous le faites ou pas? C'est effectivement dans la démocratie des colocataires et des copropriétaires que ça se joue. Et je dirais même, individuellement, quand vous acceptez de payer votre ticket pour prendre le bus, quand vous acceptez de faire l'effort d'aller à pied ou de prendre le train ou de prendre un vélo, c'est vous-même qui prenez la décision. Donc nous sommes tous co-responsables. Il y a les gens qui sont plus responsables que d'autres, je l'ai dit. Donc il y a les gens qui s'en fichent et qui ont plus de puissance. Mais ne vous exonérez pas, s'il vous plaît, de vos propres responsabilités.
Merci beaucoup.